RMC.
La politique, messieurs, devrait être une vocation.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Pour le plus grand nombre, elle est un métier.
Le mercredi, c'est le conseil des grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, en direct sur RMC 10h-13h. Et comme tous les vendredis, vous savez qu'on a un rendez-vous avec les grandes gueules de la politique, les élus de la République. C'est le conseil des GG. Avec nous aujourd'hui, Jean Lassalle, député MoDem de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, maire de Lourdes-Diocichère. Bonjour Jean.
Bonjour.
Lionel Lucas, député UMP des Alpes-Maritimes, cofondateur de la droite populaire. Bonjour.
Bonjour, je vous signale, c'est mercredi, camarade. Hein, vous avez dit vendredi.
Ah, j'ai dit vendredi, pardon, c'est l'inconscient qui parle.
Je sais pas.
Oui, à mon avis, c'est un mauvais signe.
Moi, je suis, en tout cas.
Et nous sommes avec Philippe Doucet, le député maire socialiste d'Argenteuil, dans le Val d'Oise. Bonjour, monsieur Doucet.
Bonjour.
Mesdames et messieurs, c'est parti. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Vous savez que tout à l'heure, à 12h45, trois déclarations à vous faire écouter et les commentaires à apporter. Midi 20, les affaires courantes. On parlera de la disparition de Stéphane Hessel, du coup de semonce populiste qui s'est exprimé en Italie. Peut-il arriver jusqu'en France? Et puis la suite des histoires, viande de bœuf, viande de cheval, cette fois-ci les raviolis, panzani qui sont touchés. Mais pour le moment, évoquons nos retraites, puisque à l'heure où nous parlons, on a Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, qui installe une commission, une de plus, pour réfléchir aux retraites. Le député des Landes, Henri Emmanueli, a des petites idées sur les retraites, député socialiste des Landes.
Je pense aussi que la biologie fait que faut quand même se poser la question de la durée de cotisation. Parce que je vois autour de moi des gens qui aujourd'hui auront passé plus de temps à la retraite que dans la vie active. C'est évident que dans l'avenir, c'est une situation qui ne va pas perdurer. Non, c'est pas un discours assez nouveau. Moi, j'ai toujours dit, je suis pour une hausse des cotisations. Et vous avez quand même observé que quand on a augmenté la durée de cotisation, puis c'était de ça qu'il s'agissait, on n'a quand même pas dit que c'était aberrant. Hein. Quand on a fait notre programme, est-ce qu'on est revenu sur la durée de cotisation? Non, vous le savez très bien.
Oui, contrairement à ce qu'on dit, il y a un consensus finalement sur l'allongement de la durée de cotisation, parce que c'est ce que dit aussi Laurence Parisot. Alors après, ils seront peut-être pas d'accord, 42 ou 43 ans. La différence, c'est la hausse des cotisations. Parisot dit non, Emmanuel aimerait augmenter les cotisations. Mais quand même, pour ceux qui nous écoutent, les retraites, c'est un dossier qui revient sur la table tous les 2-3 ans. Et à chaque fois, on nous explique qu'on va faire une réforme et qu'on aura tout réglé. Et ensuite, des experts nous expliquent dans la foulée qu'il manque entre 20 et 30 milliards d'euros pour financer le système. Alors que faut-il faire? Une vraie réforme définitive, ou on continue comme ça à penser les plaies?
Bah, si on raisonne, je pense qu'il y a un écart entre une situation et la perception que les citoyens peuvent avoir de la situation. Juste un chiffre, en un siècle, de 1900 à 2000, l'espérance de vie en moyenne, homme-femme, en moyenne, est passée de 48 ans à 79 ans. Soit une hausse de 65%. Donc ça, c'est les chiffres. Sauf que la réalité vécue de ceux qui arrivent aujourd'hui à la retraite, un certain nombre d'entre eux ont commencé à travailler très jeunes, et donc, ils ont attendu ce moment d'arriver à la retraite. Donc eux, leur perception n'est pas la même que celle aujourd'hui des chiffres. Donc ça, c'est un sujet politique, parce qu'il y a la brutalité des chiffres, et puis il y a comment on a un débat dans la société pour que cette perception-là, qu'on vieillit, qu'on vieillit de mieux en mieux, les gens se portent de mieux en mieux, on le voit d'ailleurs sur la date de la perte d'autonomie, il y a quelques années c'était 80 ans en moyenne la perte d'autonomie, maintenant c'est encore plus tard, donc les maisons de retraite ont changé, etc., etc. Donc du coup on a un vrai sujet de société, je pense qu'il faut qu'il y ait un vrai débat démocratique sur comment on le traite, Henri Emmanuel a raison, mais les citoyens français n'ont pas tous cette perception. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire la grande réforme de la retraite qui résolve le problème.
Quand c'est la droite qui veut la faire, la gauche est dans la rue, et quand c'est la gauche qui veut la faire, la droite va sans doute dire que c'est pas assez.
Oui, mais sur le fond, en même temps, il y a un consensus. La preuve, c'est que Henri Emmanuel a raison de le rappeler. François Hollande n'a pas dit qu'il reviendrait sur l'âge de la retraite. Donc, on a travaillé sur ceux qui avaient démarré tôt à travailler, parce que là, ça nous paraissait une injustice, mais on n'est pas revenu malgré les pressions qu'il y a eu. Donc là, aujourd'hui, il y a quand même une responsabilité politique, là, François Hollande et Jean-Marc Ayrault, ils font pas ça à la fin du mandat.
D'accord.
Ils font dès le début du mandat de mettre en place, parce qu'on voit bien qu'il va
concertation.
Oui, concertation, mais ça veut dire qu'on va, l'idée c'est quand même d'aller, je pense, assez vite.
Assez vite. D'ici la fin de l'année?
D'ici la fin de l'année, je sais pas, mais en tout cas, pas d'ici la fin, avant la fin du mandat. Vous voyez?
René Lucas.
Les faits sont têtus, disait Lénine.
C'est toujours bien de citer Lénine.
Surtout Lionel Lucas.
Ouais, surtout nous. Eh
bien
oui, camarade.
Et rejoint Jean-Luc Mélenchon.
Eh oui, camarade. Quand c'était nous qui le disions, vous nous traitiez de tous les noms d'oiseaux, qu'on était vraiment les salauds qui allaient réduire la possibilité pour les gens de prendre leur retraite. Maintenant que vous êtes au pouvoir, bah vous regardez le front abyssal qu'il y a pour le déficit des retraites. Vous venez de dire effectivement des choses évidentes. Il y a une espérance de vie qui s'allonge. Il y a la nécessité de trouver les moyens de préserver à la fois les retraites actuelles et puis d'assurer les retraites à venir. Et tout ça, bah, il faut trouver le financement. Donc moi, je suis heureux que la gauche, confrontée aux réalités, soit un petit peu plus réaliste. Simplement, quelle hypocrisie sur le débat de l'âge de la retraite. Tout le monde sait bien que 60, 62, 65 ans, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la durée de cotisation. Vous avez fait croire aux gens que vous alliez préserver la retraite à 60 ans, que vous reviendriez sur la retraite à 60 ans, mais avec la durée de cotisation et des gens qui commencent de plus en plus tard.
Monsieur Lucas, regardez une seule fois si François Hollande déclarait ça.
25 ans. Rajouter 42, 43, 44 ans de cotisation, ça va vous mener, comme les autres pays, entre 67 et 70 ans.
À c'est condition ça, d'arriver à avoir 43 ou 42 ou 44 ans de cotisation dans un monde en crise et avec le chômage.
De l'économie et de la réalité.
Monsieur Lassalle.
Je pense que ce débat nous renvoie aux vicissitudes de nos propres vies. Je trouve que c'est le reflet. Un raccourci qui est très lourd à porter, très dur, mais de la vie de nos contemporains aujourd'hui, c'est-à-dire une vie sans repère. On commence à travailler très tard. Alors l'espérance de vie a considérablement cru, mes deux amis l'ont dit, mais il faut bien voir que heureusement qu'à l'époque on n'avait pas attendu l'âge qu'on attend aujourd'hui pour pouvoir espérer rentrer au travail. Donc à partir de ce moment-là, tout est remis en cause, et ce qui est remis en cause aussi, c'est notre moyen de vivre, la solidarité que nous portons en nous. Et moi je pose quand même une question, c'est comment ont-ils fait à l'époque, lorsque la retraite a été instituée, ils sont partis dans une situation gravissime. Il n'y avait aucun acquis, parce que là, personne n'avait cotisé jusque-là. Mm-hmm. Et quand même, ça peut être mis en place. Dernier point, je suis d'accord sur ce que disaient d'une manière différente mes deux amis, Doucet et Lucas. Je pense qu'il faut quand même... C'est un dossier d'unité nationale. On ne peut plus se permettre le luxe maintenant de se battre sur ce dossier-là. Il ne faut plus, il faut arrêter là-dessus.
Mais ça, vos électeurs vont dire, mais c'est pas la gauche pour laquelle on a voté, ça, alors,
c'est pas la gauche populaire.
Non, mais la gauche populaire, c'est d'être attention aux petites retraites. Parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a un écart extrêmement important. Oui, mais c'est bien Lionel Lucas de montrer le manifeste de la gauche populaire à la radio.
Mais Doucet, c'est la gauche populaire, il est venu avec son manifeste. Voilà. Et Lionel Lucas, lui,
il copie. Il me suit la gauche populaire.
Donc, l'enjeu, on voit bien aussi. Non, mais c'est aussi une des difficultés du débat démocratique. C'est qu'aujourd'hui, il y a la question de l'âge, il y a aussi encore beaucoup de petites retraites dans ce pays. Beaucoup de petites retraites, notamment de ceux qui ont cotisé partiellement, etc. Donc on voit bien aujourd'hui que ceux qui ont des petites retraites, ils s'inquiètent aussi de comment ça va devenir, ça. Donc on a, nous à gauche, un sujet sur les petites retraites.
Il y a aussi une chose, vous citiez tout à l'heure des chiffres, effectivement on vit plus longtemps, sauf qu'aujourd'hui aussi on est dans une société où il y a de plus en plus d'inactifs et de moins en moins d'actifs, et le rapport entre les actifs et les inactifs se réduit. Donc est-ce qu'il n'est pas temps de changer de système, le système par répartition qui date de l'après-guerre,
les gens qui veulent travailler,
je vais pas faire
libre les gens qui veulent travailler, au moment de la retraite.
La société française vous répond d'une certaine façon. J'ai pas d'action chez eux, mais la banque HSBC a fait toute une enquête internationale que vos confrères ce matin présentaient sur une autre radio. Au final, les Français avec les Chinois dans le monde entier, eh bien, sont ceux qui à plus de 40% souhaitent le maintien de l'État-providence et sont confiants dans l'État-providence pour maintenir un système par répartition. Donc la société française, elle n'est pas dans la logique libérale anglo-saxonne.
C'est parfois d'ouvrir les yeux aux citoyens et leur expliquer que le système actuel ne fonctionne plus.
Moi, je pense qu'il y a un chemin
il y a un chemin pour qu'il y ait le maintien de la retraite par répartition qui reste un acquis essentiel du pacte républicain français aujourd'hui, lié, on va parler tout à l'heure de Stéphane Hessel, mais lié à cette logique-là de tout ce qui a émergé de la Seconde Guerre mondiale. Et je pense qu'on peut adapter ce système par répartition, peut-être en travaillant sur la durée de cotisation, peut-être en travaillant aussi sur les questions de désindexation.
La capitalisation aussi.
Non mais il ne faut pas avancer masqué à ce moment-là, il faut le dire franchement.
Mais moi je suis pour que...
Franchement, par la gauche.
Parce que derrière aujourd'hui, après, de facto aujourd'hui, il y a de la capitalisation. Sans le dire, quand les gens.
Il faut la même rendre obligatoire, cette capitalisation.
Ça, c'est aussi à la société française de répondre. Aujourd'hui, les Français, ils ont deux systèmes de capitalisation. Ils ont énormément d'assurance vie. Et ils ont un taux d'épargne et des placements dans l'immobilier pour ceux qui en ont les moyens les plus importants. Le problème de la capitalisation, c'est toujours la même chose. C'est comment. On a de la justice sociale dans ce pays. Donc ça veut dire qu'on renforce...
Ceux qui ont les moyens peuvent payer leur retraite, et ceux qui n'en ont pas, on fait jouer la solidarité.
C'est bien pour ça qu'on a ce sujet-là, de comment aujourd'hui, toujours à travers la valeur de la justice sociale, en tout cas qui est la nôtre, eh bien comment on met les choses en place. Donc la question des petites retraites, et comment on avance, désindexation, allongement de la durée de cotisation, etc.
Est-ce que la droite, qui a fait une réforme des retraites, il y a eu des millions de gens dans la rue... Oui, mais finalement, elle aurait dû aller plus loin.
On aurait dû mettre la barrière à 65 ans, ce qui nous aurait donné les marges dont on avait besoin, les 30 milliards d'euros et non pas les 18. Mais je le répète, on est dans un monde qui évolue aujourd'hui. L'âge de la retraite, c'est quelque chose qui ne veut plus dire. Vous avez des gens qui font un métier passionnant, qui n'ont pas envie de s'arrêter, qui ont envie de continuer. Vous en avez d'autres pour qui c'est insupportable parce que c'est un esclavage.
Il y en a d'autres aussi qui, à 50 ans, aimeraient bien continuer, qui sont au chômage à 50 ans.
Mais exactement, tout est fixé, fossilisé dans ce pays. Alors moi, je suis favorable, et je l'avais dit à l'époque du temps de Nicolas Sarkozy, on aurait dû prendre le temps de 2 ans de débat, comme en Suède, pour arriver à un accord unanime.
Gauche-droite, alors.
Gauche-droite, syndicat, patronat, pour faire de la pédagogie, expliquer, faire prendre conscience aux populations des évolutions qui se font. Dans 30 ans, 40 ans, qu'est-ce que ça voudra dire prendre la retraite dans une société qui n'est plus industrialisée, dont la pénibilité du travail a singulièrement évolué, avec peut-être d'ailleurs une espérance de vie qui aura commencé à reculer, on en parlera tout à l'heure sur le problème de la santé alimentaire et des effets ravageurs de ce qu'on nous fait consommer aujourd'hui. Et on le voit également aux États-Unis, l'espérance de vie régresse pour la première fois depuis 2 ou 3 ans. Avec l'obésité, avec des maladies. Bref, on ne peut pas rester sur des projections sur 100 ans. Il faut regarder sur 20 ans, mais effectivement, faire un débat...
Je partage l'avis sur le grand débat démocrate. De toute façon, aujourd'hui, une société ne bouge, les citoyens sont des acteurs, une société ne bouge que quand l'ensemble des acteurs prennent la main
dessus. Le débat, c'est la démocratie sociale. Quand la gauche gouverne, quand elle est dans l'opposition, elle veut rien entendre.
Elle veut bien entendre, il faut dire qu'il y a du débat.
Je partage le sentiment de Lionel Lucas sur le fait qu'il faut tenir compte de... Philippe Doucet l'avait dit à sa manière, du changement. Au fond, je regarde les choses d'une manière très simple aujourd'hui. Je vois trois catégories de nos concitoyens. Et je dis que ce débat nous renvoie à nous-mêmes, à notre manière de nous comporter aujourd'hui, et nous serons rattrapés par lui un peu plus tard, si nous ne le réglons pas. Il y a une catégorie pour qui c'est très urgent, vraiment, de partir à la retraite le plus tôt possible. Ceux qui ont travaillé très dur, et qui ont des retraites de misère, parce que ça, il ne faut pas l'oublier, qui n'y arrivent pas, tout simplement. Moi, je suis entouré de personnes qui sont dans ce cas-là. Deuxièmement, il y a la catégorie de gens qui sont tout surpris d'avoir 60 ans, et que d'un seul coup, il faille se poser, sans aucune autre alternative, leur question de partir à la retraite avec presque la dépression nerveuse que ça leur...
Et on peut maintenant quand même cumuler retraite et...
il y a des gens qui ont refait leur vie pour qui c'est pas suffisant.
Aujourd'hui, puisque Lucas partait de l'idée qu'il fallait se donner 2 ans peut-être, ou pour faire vraiment, mettre tout sur la table, et faire... participer à un véritable débat l'ensemble de notre
société. Mais c'est ce qu'on dit à chaque fois, mais en France, on n'arrive pas à le faire.
Non, mais on ne le fait pas, à mon avis. Honnêtement, le gouvernement précédent, quand même, moi je peux le dire, parce que je ne l'ai pas beaucoup soutenu, mais moi je peux dire quand même qu'ils ont fait un effort réel. Mais franchement, ils ne pouvaient pas aller plus loin, sinon c'était la révolte.
C'était la révolution.
Ensuite, il y a, je pense, donc ceux pour qui la retraite est presque insupportable à un moment donné, ils se disent c'est beaucoup trop tôt, et à mon avis, ça va s'élargir. Et puis, il y a le sentiment français qui fait qu'effectivement l'État reste le garant de l'égalité des chances. Donc je crois que c'est autour de ça que doit s'organiser le débat.
Midi 20,
que j'appelle de mes voeux.
Midi 20, aussi. Après les retraites, on va, c'était lié aussi, l'espérance de vie, nous disait Lionel Lucas, on va évoquer quand même le petit scandale sanitaire, voir ce que les élus peuvent faire. Comment vous-même, bah, vous interprétez là, les histoires viande de cheval, viande de bœuf, on parlera de la mort de Stéphane Hessel, et puis on évoquera l'Italie, les élections en Italie, la poussée populiste, est-ce que la France est à l'abri, oui ou non? Allez, à tout de suite pour le Conseil des GG avec Lionel Lucas, Philippe Doucet, Jean Lassalle. Trois députés sont avec nous aujourd'hui.
S'il vous plaît.
RMC, le Conseil des Grandes Gueules.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Les affaires courantes.
Les GG, les Grandes Gueules, avec aujourd'hui le député socialiste et maire d'Argenteuil dans le Val-d'Oise, Philippe Doucet, Lionel Lucas, député UMP des Alpes-Maritimes, Jean Lassalle, député Modem et maire de Lourdes aussi cher. Messieurs, dans les affaires courantes, on a quand même le dossier viande de cheval, viande de bœuf. Alors, sans connaître vos habitudes alimentaires aux uns aux autres, je sais pas, vous consommez des surgelés, des plats tout faits ou pas?
En fait, je trouve très bien cette affaire. Non, je consomme peu de surgelés, mais honnêtement, un député vert, généralement, il a une vie tellement décalée et tellement perturbée que, en termes de santé alimentaire, on n'est pas des modèles à suivre, parce qu'on mange à peu près n'importe quoi à n'importe quelle heure. Donc, on n'est pas tous sauf des exemples à suivre.
Mais ce que je trouve, Lucas n'est pas d'accord.
Sauf peut-être Lionel Lucas dans les Alpes-Maritimes. En tout cas, Philippe Doucet, c'est un peu particulier.
Dans les Alpes-Maritimes, mais donc une bonne purée maison préparée que donc, d'aller se bouffer.
Non mais je suis d'accord, mais
le meilleur t'as le temps, c'est encore la boîte.
Quoi, t'as le temps d'y aller, de faire ta purée maison.
Néanmoins, j'ai la chance qu'on me fasse la purée maison.
Donc voilà. Moi ce que je trouve extraordinaire, c'est que les Français à cette occasion-là se sont rendu compte du circuit de la viande, le trader chypriote, le trader néerlandais.
Les politiques aussi,
etc.
J'ai l'impression. Hein.
Donc oui, parce que d'une certaine façon, j'espère qu'à travers cette crise, on va se reposer les bonnes questions sur qu'est-ce qu'on mange, les problèmes de la production locale, de comment on gère toutes les questions du circuit court qu'honnêtement les écologistes ont mis en avant depuis des années, et cette question du circuit court
là, il est, c'est
le
un
mode de
complexe,
fonctionnement hein. Je pense qu'il faut se réapproprier ces sujets. Il y a un enjeu aussi, c'est qu'on voit aujourd'hui que c'est les classes populaires qui subissent la malbouffe, parce qu'effectivement dans les hypermarchés c'est pas cher, donc on prend parce qu'on a une famille à nourrir, et qu'effectivement les lasagnes surgelées ça coûte pas cher.
On s'est aperçu que Panzani et Spanghiro s'était fourni chez le même, c'est-à-dire le fameux néerlandais, là, le trader qui serait à l'origine de cette affaire.
Alors, monsieur l'exploitant agricole, monsieur Lassalle.
Oui, c'est vrai, je suis fils de berger, fils de...
C'est bon pour les produits français, tout ça, finalement.
C'est bon. Mais alors, je dois dire aussi d'emblée aux grandes gueules, parce que je pense que tous le savent, mais peut-être pour ceux qui ne le sauraient pas, ils ne comprendraient pas, au moment que le franchise, vous savez que le PDG de Spanghiro, c'est mon suppléant, c'est-à-dire mon député suppléant.
Et si vous l'avez défendu, Aguerre.
Barthélémy
Aguerre. Donc lui aussi, il a été victime.
Mais, c'est-à-dire, il faut laisser l'enquête se dérouler. Je pense qu'elle va... Bon, les faits sont très graves, donc il faut laisser l'affaire se développer. Par contre, je pense que ce qui est bien, c'est qu'on est arrêté le lynchage médiatique, parce que ça me fait rappeler un peu le Far West, vous savez, du temps du Far West. On en pendait un, mais le Far West restait quand même le Far West.
Simplement, Spanghiro qui a demandé ce matin l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Donc oui. Là, c'est l'entreprise qui est en danger de mort.
Ah, mais elle est en danger de mort parce que forcément, elle a été arrêtée pendant une semaine, donc vous ne reprenez pas des marchés, surtout après une campagne méritée comme celle qu'ils ont eue. C'est un énorme problème. Mais je voudrais dire qu'indépendamment de cela, je maintiens ma confiance à un homme que je connais depuis tout petit. Nous avons été les deux plus jeunes maires de France à l'époque. Nous étions tous les deux des fils de petits chefs d'exploitation minuscules. Je veux dire que moi-même aussi, j'ai découvert ce transit, cette transhumance de la viande.
Ce circuit très complexe.
Extraordinaire. Et moi-même, je me dis, mais je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, on puisse en arriver à manger ça.
En même temps, l'Europe que vous avez appelée de vos voeux, elle accepte tout ça, hein, puisque rappelons-le que la réglementation européenne impose aux industriels, certes, de mentionner le type de viande dans les plats, donc du bœuf plutôt que du cheval, quand on achète du bœuf, mais pas l'origine. Donc finalement, c'est peut-être aussi une porte ouverte à tous les excès.
Pas dans les parties, qui est certainement un des européistes les plus convaincus. Moi, j'ai toujours été beaucoup plus réticent. Moi, je n'ai pas voté Maastricht, je n'ai pas voté le dernier traité à Versailles, Lisbonne. J'ai toujours été très... Et on voit aujourd'hui que quand même, on n'a pas pu en arriver là sans qu'il y ait quand même... quelque part un dérapage des autorités
qui
sont censées... Oui.
Lionel, voilà.
Moi, je pense que c'est beaucoup plus grave que ça. C'est que c'est vraiment l'iceberg. On n'a que la partie émergée. Parce que, en fait, il ne s'agit que d'une escroquerie d'étiquette. Il n'y a pas de la santé alimentaire menacée. C'est simplement une affaire de carabistouille.
Une tromperie économique.
Voilà, une tromperie. Mais ce que nous mangeons aujourd'hui est dramatiquement pollué. Il y avait dans Le Monde, il y a trois jours, Fabrice Nicolino qui expliquait en quoi il y avait un vrai scandale alimentaire qui menaçait. À côté, l'amiante, vous verrez, c'est de la rigolade. J'allais presque dire, la nicotine de la cigarette, en comparaison, c'est foutaise. C'est-à-dire que tout ce que nous mangeons, c'est quand même vacciné, c'est quand même piqué, c'est quand même fait avec des antibiotiques. Il y avait dans Le Monde une carte sur la menace du staphylocoque doré résistant à la méticilline, où nous étions, nous, bizarrement épargnés, alors que tous les pays autour de nous ont des taux absolument effarants. Et si l'Europe, au lieu d'être soumise au lobby, parce qu'il n'y a pas d'autre raison que ça, et des politiques qui surfent par ignorance ou par complaisance sur ce véritable scandale industriel qui menace la santé alimentaire de tous les Européens, et nous en particulier, si nous ne faisons pas notre révolution sanitaire, attention. Moi, j'ai été député en 1997 avec André Aschieri, qui est maire de Mont-Sartou aujourd'hui, qui était un député vert. Il a été le premier, je l'ai suivi à l'époque, alors qu'on n'était pas du tout du même bord, sur ces aspects de menace sur notre santé, compte tenu de tout ce que la logique productiviste agroalimentaire nécessite aujourd'hui. Et ça, c'est comme l'affaire Armstrong. On s'apercevra que la vérité qu'on nous sort aujourd'hui ne sera pas celle de demain.
Est-ce que c'est pas un peu facile de taper maintenant sur l'industrie agroalimentaire? C'est celle d'industrie qui nous nourrit tous et qui nourrit une planète
qui nous nourrit pour faire du fric avec des lobbies qui font le siège de la Commission européenne elle-même. Totalement.
On va tous faire nos courses dans les supermarchés, on achète ces produits-là.
C'est peut-être l'occasion de se réinterroger.
C'est l'occasion aussi, permettez-moi de le dire, d'arrêter de bouffer n'importe quoi, d'aller au supermarché pour finalement remplir le caddie, remplir le frigo, où on ne consomme pas tout dans le frigo et jeter après, cette société du gaspillage, même chez les gens les plus modestes, de ne pas rester malgré les... Tu as dit tout à l'heure, notre mode de vie fait que madame qui travaille, madame qui rentre et les enfants à s'occuper, mais malgré tout... Pourquoi le petit pot qui déjà déflore le goût de l'enfant plutôt que la petite purée rapidement préparée par maman? Enfin, je veux dire, deux minutes de plus, trois minutes de plus. Ouais, mais maman, mais je veux dire, il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a aussi...
Parfois, papa, il peut faire aussi.
Papa peut faire, tout le monde... Voilà, je pense qu'il faut revenir à des bases naturelles et saines. C'est au consommateur de prendre le pouvoir. C'est lui le vrai lobby. Ça n'existe pas dans nos sociétés. N'attendons pas que ça vienne d'en haut. Prenons les choses en main nous-mêmes.
C'est notre santé, peut-être que cette crise-là, espérance de vie qui est en jeu.
Peut-être que cette crise-là, ce que ça révèle, peut-être qu'effectivement, il faut que le consommateur se regarde dans son dispositif.
Et que on les associations de consommateurs aient plus de crédit et plus de poids.
C'est aussi nos démarches. Je vois sur Argenteuil, j'ai une AMAP, avec 120 familles qui font vivre un agriculteur du Beauvaisis qui, tous les jeudis, vient avec des légumes, etc., directement avec un panier. Donc c'est possible. Vous voyez,
pas à grande échelle, c'est ce que je disais.
Mais on a des marchés. On a des
marchés. Tout le monde, ça peut pas marcher.
Non, mais on peut y retravailler. C'est un vrai choix de se dire, est-ce qu'on continue dans ce type d'agriculture avec le type de résultat? On va pas manger du porc gavé aux antibiotiques jusqu'à la nuit des temps, quand même.
La conclusion, un élément à ajouter à ce qu'on dit Philippe Doucet, Lionel Lucas, c'est aussi une conséquence, mais c'est la dictature du coût le plus bas.
Bien sûr.
C'est-à-dire, c'est une concurrence à mort. Bien sûr. Pour ceux qui, malheureusement,
y compris pour le producteur.
Un jour. Alors, on assassine les producteurs, on assassine finalement tout le monde, il n'y a que des intermédiaires qui s'en sortent, et vous avez vu...
Mais c'est pour ça qu'il faut faire le circuit court. Si tu fais le circuit court, voilà, il faut que ça aille du producteur au consommateur. Il faut supprimer les intermédiaires.
D'accord avec ce que dit Philippe Doucet, je pense que ça peut être un électrochoc pour quand même nos concitoyens qui ont déjà commencé à s'intéresser au circuit court.
Mais là, dites-moi, vous avez entendu les Verts sur ce dossier? Dossier là, vous?
Ah non, bah, honnêtement, faut être. Ouais. Il porte et... ça, il porte ça depuis des années. Je veux dire. Bah, on peut reprocher plein de choses à José Bové. On peut reprocher plein de choses à José Bové.
Ça leur donne du flot qui le porte.
Ça leur donne
quand même raison. Le circuit court, etc.
Troisièmement, pour essayer de finir mon raisonnement, je disais donc maintenant c'est à nous tous de nous de prendre le taureau par les cornes. Et si l'Europe ne veut pas connaître l'an prochain une déconvenue aux prochaines élections, parce que ça sera terrible. Alors, c'est certainement l'élection justement. La plus tragique que nous vivrons. Eh bien, là, elle a un bon sujet pour essayer de se réconcilier avec l'opinion publique et les États.
Justement, voilà. Les élections, parlons-en, mais les élections en Italie, avec la poussée du populisme incarné, c'est ce que l'on dit, par Beppe Grillo, cet humoriste qui a dénoncé tout au long de sa campagne, qui a renvoyé dos à dos Berlusconi et Mario Monti, et l'Europe d'Angela Merkel.
Oui, bah ce qui est intéressant, c'est que si on prend Silvio Berlusconi et Beppe Grillo et qu'on regarde à côté le score de l'ancien premier, enfin le premier sortant, Mario Monti, c'est très impressionnant parce que Mario Monti, c'était l'homme de la rigueur, l'homme finalement raisonnable. Il est rejeté totalement par les Italiens qui préfèrent Berlusconi et Beppe Grillo, même si c'est la gauche qui arrive.
Est-ce que ça nous menace ?
Non, mais c'est une grande leçon de politique. C'est une très grande leçon de politique. Ça montre deux choses dans cette affaire-là. D'abord qu'il faut une Europe politique. Parce qu'autrement, si on continue dans cette logique-là, on a une Europe bureaucratisée, il n'y a pas d'Europe politique, il n'y a pas de débat démocratique. Et s'il n'y a pas de débat démocratique, on s'en sort pas.
Mais Monti n'avait pas été élu, personne n'avait choisi.
Tout à fait. Et la grande leçon sur l'Italie, c'est que quand on dit on a un gouvernement de techniciens, etc., ça donne ce résultat-là. Mmh. Parce que derrière, il peut y avoir des difficultés, financières dans chacun des pays, mais il faut prendre le prisme du politique, pas de la politique, du politique. Donc c'est pour ça que moi je pense que sur la France, on a intérêt dans la période qui est aujourd'hui à pas simplement être comme nous on le dit à la gauche populaire, pas simplement être dans juste la rigueur, mais pour une rigueur juste, c'est-à-dire qu'il faut expliquer les choses, où on est, où on va, c'est quoi le sens des choses. Aujourd'hui, les Français, ils savent parfaitement que la situation est compliquée. Ils peuvent entendre un certain nombre de mesures, ils peuvent accepter un certain nombre de mesures, mais il faut que ça fasse du sens. Donc, on peut pas avoir de logique de difficulté quand, à côté, on a de la fraude fiscale massive, etc.
Il y a 9 mois à la présidentielle, 25% des Français ont voté finalement pour des candidats anti-système, Mélenchon et Marine Le Pen.
Oui, moi, je pense que d'abord, il fallait pas s'attendre à ce que celui qui a donné la potion amère aux Italiens soit populaire, par définition. En plus, il a le profil du technocrate apatride dans toute sa splendeur, donc c'était pas ce qui fait vibrer dans une campagne électorale. Ce qui est étonnant, c'est quand même le retour invraisemblable de Berlusconi, qui vient mourir à 0,4% seulement de Bersani, qui est pourtant quelqu'un qui présente bien, mais qui est assez fallot. Surtout, ça montre qu'en période de crise, la démagogie, c'est toujours porteur. Être anti-système, être anti-réalisme, vouloir rêver de quelque chose de mieux que ce que l'on subit et dont certains portent peut-être aussi la responsabilité, sont les ingrédients classiques. Donc, rien d'étonnant. Nous avons ça chez nous aussi entre Mélenchon d'un côté, le Front de Gauche, Marine Le Pen de l'autre côté, le Front National. À eux deux, ils font le même score que Beppe Grillo.
Mais au lieu de culpabiliser les électeurs italiens et les électeurs français, comme on le fait quand même régulièrement, est-ce qu'il faut pas aussi...
Ça traduit une souffrance, bien sûr.
Bah oui, quand même.
Entre les responsables politiques qui n'assument pas leur promesses lorsqu'ils sont au pouvoir, qui tiennent compte supposée de réalité économique, sociale, qui n'en sont pas, et une Europe qui commande et qui donne l'impression en tout cas d'avancer en se moquant éperdument des peuples, qui ne les consulte pas, qui veut à tout prix avancer toujours plus loin. Et comme le disait Jean tout à l'heure, l'année prochaine aux européennes, ce sera un tsunami politique de défiance vis-à-vis de l'Europe.
Justement, Jean Lassalle, dans son dernier livre, c'est le citoyen qu'il met au centre de la politique. Alors l'Italie, c'est justement la concrétisation de votre crainte que l'on oublie le peuple, Jean?
Oui, et que le peuple le fasse savoir. Alors, sur la question que vous posiez, est-ce que la France risque de suivre? Moi, je suis persuadé que nous n'y échapperons pas. Est-ce que vous avez vu une seule fois nos pays, nos amis voter d'une certaine manière et nous y échapper? D'habitude, nous sommes d'ailleurs des précurseurs. Et ensuite, ça suit ailleurs. Ce coup-ci, il y a une stabilité que la Ve République a apportée à notre pays depuis qu'elle existe, qui permet d'atténuer cela, mais je pense qu'on ne va pas y échapper. paix. Alors moi, ce que je note, c'est qu'on est complètement paumé, parce qu'on est assis entre deux chaises, on ne sait plus si c'est la France, si c'est l'Europe, vers qui il faut se tourner. Il n'y a plus de débat, parce que c'est devenu complètement tabou, là, hélas, là-dessus. Et moi, je pense que ce serait très urgent de s'y mettre. Et puis, il est évident que dans une situation comme celle-là, c'est les populistes qui l'emportent toujours, et le miracle de Berlusconi, dont parlait Lionel Lucas à l'instant, n'est l'illustration. Alors, moi, sans vouloir déplaire à Philippe Dossier, parce que je l'aurais dit à Lionel Lucas de la même manière il y a 2 ans, je pense qu'on devrait peut-être arrêter quelques débats qui aujourd'hui, honnêtement, nous font perdre du temps. La suppression des cantons sur 50% du territoire, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus
très fort sur ça. Il arrive à parler des cantons en parlant du résultat d'Italie.
Saint-Jean-Pierre-de-Port qui vont disparaître. Non, mais c'est perçu comme
mais
ça.
Y a plus personne. Oui, c'est la logique européiste aussi, d'ailleurs.
La logique européiste, c'est juste une égalité territoriale.
Sur le mariage pour tous, que de temps de perdu, alors que nous risquons peut-être l'an prochain d'avoir les deux extrêmes qui gagneront les élections européennes. Mais quel camouflé pour la France ! Moi, je nous interroge là-dessus. Est-ce qu'on est sur le bon timing ? Est-ce qu'on réalise ? Est-ce qu'on voit la même chose ou pas ?
Hollande vient de demander à son gouvernement et à ses ministres, c'était le Conseil des ministres aujourd'hui, d'accélérer la mise en œuvre des décisions. Donc peut-être qu'il a entendu Jean Lassalle. Il faut aller plus vite.
Oui, mais lesquelles ?
Ah oui, mais alors plus
vite. Celles qui ont déjà été prises ? Par exemple, les emplois d'avenir, ça va pas très vite. Hein. Les contrats de génération, ça
on
va pas très vite.
On en a 8 000, un peu plus de 8 000. Oui. Pour 100 000, vous tablez sur 100 000 en 2013.
Non, mais on a plusieurs difficultés là-dessus. D'abord, déjà, les emplois jeunes en 97, c'est des dispositifs qui sont à se mettre en place. Je dirais, hein, parce que derrière, il y a comment ça s'intègre
c'est
dans les dispositifs.
Ils ne savent pas forcément ce que c'est le travail.
Oui, on voit. Hein, je fais sur Argenteuil, il y a un salon de l'emploi. On voit bien que même des fois, pour se repérer dans les stands, ils ont quelquefois du mal à appréhender ces affaires-là. Le deuxième aspect, c'est qu'une question sur les emplois d'avenir, un des débouchés, c'est les collectivités locales. Comme par ailleurs, les finances des collectivités locales sont un peu compliquées, c'est sûr que ça prend un peu plus de temps. Et puis, le dispositif des contrats de génération, c'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il y ait le débat au sein de l'entreprise entre ceux qui vont être amenés à partir et puis les nouveaux, les jeunes et tout. Donc c'est aussi une discussion, c'est-à-dire qu'il faut apprendre. Donc il y a une urgence et en même temps c'est des dispositifs qui mettent un peu de temps à s'installer. Donc
un mot sur la disparition de celui qui est présenté comme une conscience de la gauche. On va écouter Stéphane Hessel.
Attention, il ne suffit pas de s'être indigné pour agir. Il faut donc, après l'indignation, passer à l'action. Engagez-vous.
Alors, ça a été un phénomène de littérature, hein. Plus de 4 millions d'exemplaires vendus d'Indignez-vous dans 35 pays. C'est un parcours de vie, ancien résident. C'est un homme très engagé, une icône à gauche, donc c'est pas l'icône de Lionel Lucas.
Allez, on a 2 minutes.
C'est une super fumisterie, bien
Pourquoi
pensante, typique de notre époque, très en creux. Moi, j'ai beaucoup de respect pour l'homme dans son passé, pour le résistant qu'il a été. Cela étant, d'en faire une sorte d'icône, de gourou médiatico-politique.
Comment expliquez-vous que ça a marché?
Ça marche parce que c'était l'air du temps, c'était une aspiration à... Vous savez, en France, on aime bien la révolte pour la révolte, mais savoir sur quoi ça débouche et concrètement, il n'y a rien derrière. Donc c'est une belle opération médiatique, commerciale. Aujourd'hui, toute la gauche est en pleurs. Je respecte son chagrin, mais ça va pas plus loin, quoi.
Philippe Doucet en pleurs, alors ? La gauche en pleurs.
Bon, parce que c'est une personnalité issue de la résistance. Donc moi, ce qui restera sur Stéphane Hessel, c'est aussi qu'il a participé à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Hein, donc c'est une
avec
année importante.
Avec le professeur Cassin.
Donc avec le professeur Cassin.
Merci
donc éminent gaulliste s'il en est.
Voilà. Donc c'est aussi une page de l'histoire de France.
C'est aussi une page de l'histoire de France.
C'est
aussi une page de l'histoire. C'est aussi une page de l'histoire de France.
Notre liberté.
Moi, ce que je trouve intéressant, moi, ce qui m'avait frappé à l'époque quand Hessel a sorti le petit bouquin, c'est qu'on parlait tout à l'heure de l'âge. Vous avez quelqu'un à 95 ans qui a sorti un livre, qui a tourné tout. Vous voyez, dans l'évolution sociétale, vous voyez, personne s'est dit, mais il a 90 ans et tout, et il tourne et tout.
Je voyais ça, faisait penser à Malraux avec Chaban-Delmas.
Peut-être, mais en attendant, non, mais ça montre aussi que le regard que les hommes et les femmes ont sur eux-mêmes a changé, c'est-à-dire qu'ils sont engagés et en même temps qu'ils peuvent le faire et que la société l'accepte. Donc, dans les processus de vieillissement de la société, Stéphane Hessel, ça montre qu'on peut être continuer un combat politique, un combat citoyen très longtemps.
Comme mes collègues, respect à l'homme, respect à la personnalité qu'il a été. Ensuite pour son action et puis son livre à 90 ans passés. Moi, je crois que ça nous renvoie. C'est notre débat d'aujourd'hui. Ça nous renvoie à nos interrogations sur notre devenir, et ça nous renvoie terriblement à la recherche de leaders qui soient capables de véhiculer.
On va chercher des vieux, parce qu'il n'y en a pas qui sont.
Oui, mais peut-être qu'il a fait rêver après.
Pierre Chenu disait. Dans un pays où les vieux sont majoritaires, les jeunes pensent comme des vieux. Le succès de SL auprès des jeunes est révélateur du vieillissement démographique français et également intellectuel. C'est particulièrement préoccupant par rapport au monde qui nous environne, et où la jeunesse est aux commandes. Voilà. Et nous, on se tourne vers les vieux.
Et de l'absence du débat d'idées.
Dans un instant.
Il n'y a pas de débat d'idées dans notre pays.
Trois déclarations à vous faire écouter, trois commentaires à apporter, mes chers députés.
RMC, 10h-13h, Alain Marchal, Olivier Truchot.
La parole est à Monsieur le Président du Conseil.
Le Conseil des Grandes Gueules.
Ah, que le temps passe vite quand nous sommes avec nos élus de la République. Philippe Doucet, le député maire socialiste d'Argenteuil. Lionel Lucas, le député UMP des Alpes-Maritimes. Jean Lassalle, député MoDem des Pyrénées-Atlantiques. Allez, trois déclarations pour vous. La première, c'est pour Monsieur Doucet.
L'école a besoin, vous avez raison, d'une grande réforme. Et il y a une cohérence dans notre action. Nous faisons une chose que vous auriez aimé faire. Nous allons redresser l'école française et faire la réforme que vous n'avez pas eu le courage de faire. Merci de le saluer et arrêtez de vous contredire. Vous avez été de très mauvais gouvernants. Essayez d'être de meilleurs opposants.
Tiens bon, payon. C'est ce que vous dites, Philippe Doucet, j'en suis sûr.
Non, c'est pas ce que je dis. Je pense que si derrière la question, vous parlez des vacances d'été, parce que c'est ce qui est en filigrane.
Quelle réforme?
Donc, moi, je pense que c'est une annonce précipitée. Je pense qu'il y
avait. Assez précipité.
Oui, moi, je pense qu'il y a des étapes dans les choses. Là, il y a la question de la réforme de rythme scolaire dans la semaine.
Qui passe difficilement, déjà.
Qui passe difficilement.
Vous allez l'appliquer dès la rentrée 2013?
Non, nous, a priori, là, mon adjoint a réuni l'ensemble des parents d'élèves, les profs, ça, on sera sur 2014, qu'il y a une demande de concertation, il y a une demande
de production.
C'était
une erreur de vouloir accélérer les choses et que dès la rentrée 2013,
vous privez de 50 000 euros, c'est dommage.
Oui, je me prise peut-être de 50 000 euros.
Ça va coûter combien, Argentin?
Donc, on est en train de regarder, ça va coûter pas loin de 2 millions d'euros. C'est une énorme ville, donc il y a des enjeux autour de ça. Non, mais surtout ce qu'on voit. Pour prendre le temps, parce qu'à travers la gestion du temps, on soulève plein de lièvres, hein. Donc, et on voit que c'est difficile parce que il y a les rythmes scolaires, mais il y a les profs du conservatoire, il y a les clubs sportifs, il y a les associations. Donc, c'est toute une organisation de la société et ça fait très longtemps qu'il n'y a plus d'école le mercredi matin. Donc, vous voyez, tout ça lève des lièvres. Et donc, je pense, je finis sur l'histoire de l'été, des vacances d'été. Je pense qu'il fallait, faut d'abord régler, oui, prenez la totalité des rythmes scolaires, ou si on commence par la semaine, on finit cette réforme-là, et puis après, on attaque le débat sur l'été. Mais je pense qu'il faut, prendre le temps des choses.
Allez, parce qu'on va essayer d'aller assez vite pour être à l'heure pour notre ami Brunet. On a maintenant une déclaration pour l'ami Lionel Lucas. Vous allez voir. Dommage, vous n'aurez pas allé voir l'image parce que je suis sûr qu'il va bondir dans tous les sens dans le studio de joie. C'est parti.
Il faut nous réinventer, nous désaccoutumer du passé pour repartir sur de nouvelles bases. Ne cherchons pas d'excuses, ne cherchons pas de sauveurs. Parce qu'en République, ce sont les citoyens eux-mêmes qui se sauvent ou qui se perdent. Nous devons tous refaire nos preuves. Et moi, le premier.
Fillon. Voilà.
On fait du neuf avec du vieux, enfin du vieux avec du neuf, je ne sais plus comment dire.
Non mais par définition, tout ancien Premier ministre a vocation à vouloir devenir Président de la République. Lorsque François Fillon dit « nous revenons sur la ligne de départ », et il vise très clairement Nicolas Sarkozy, il a parfaitement raison, mais Nicolas Sarkozy est aussi celui qui a été président de la République, un homme d'État, et ça pèsera aussi dans la balance si lui-même veut participer à la primaire.
Vous êtes en train de dire que l'avenir
2016.
De la droite pour dans 5 ans, c'est Fillon ou Sarkozy?
Bah écoutez, ça sera peut-être d'autres, parce que d'ici là, personne ne peut dire s'il n'y aura pas une figure qui émergera et qui sera incontestable. Nous avons des gens de qualité au sein de notre mouvement, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, Laurent Wauquiez. Non, parce que moi je suis pas dans cette logique, et je me prends pas pour ce que je suis pas, donc voilà. Mais
il n'est pas temps de passer justement à une nouvelle génération.
Je préfère être dans le rôle du pouvoir d'influence que du pouvoir pour le pouvoir, mais chacun a sa vision et ses logiques. d'intervention, mais je crois que d'ici 2017, on peut avoir des surprises. Après tout, personne n'imaginait François Hollande. Mmh. Tout le monde ne parlait que de Dominique Strauss-Kahn. Mmh. On a bien
et même avant Jospin.
Donc il suffirait que quelqu'un s'égare dans un Sofitel à Singapour pour que ça change la donne à droite aussi.
Troisième déclaration, c'est pour l'ami Jean Lassalle.
Après avoir fait à plusieurs reprises mon examen de conscience devant Dieu, je suis arrivé à la certitude que mes forces ne me permettent plus d'assurer ma mission au sein du ministère pontifical.
Alors, il y a une place pour Bayrou.
Écoutez, Bayrou,
t'es déjà le nouveau pape du modèle.
Déjà, c'est le travail, comme ça, ne le surchargez
alors
pas.
C'est aujourd'hui la dernière audience publique de Benoît XVI, il part demain.
Écoutez, moi, je suis dans un monde où tout change, mais là, vraiment, pour le coup, il m'a soufflé. Parce que le pape qui s'en va, alors que personne ne lui demande derrière, là, vraiment, j'ai été
soufflé.
C'est
pas en politique qu'on verrait ça.
Ah non, ça, vraiment. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez, tout a été dit là-dessus, donc je vais pas passer.
Vous saluez son geste ?
Oui, je pense. Il m'a rien fait de mal. Et je pense que, en tout cas, il l'a fait en conscience. En tout cas, c'est rarissime de voir quelqu'un à ce niveau de responsabilité s'en aller. Et d'une manière, je dois le dire, assez digne.
Donc, c'est-à-dire que le renoncement devient courage,
non,
alors
non, non, mais c'est pas. Attendez.
Mais il renonce aussi face peut-être à certaines affaires. On nous explique qu'autour de lui, il y a des petits soucis.
Oui, certainement. Mais en tout cas, bon, il l'a fait. Laissons quand même un petit peu de part à la beauté du geste. On verra ensuite s'il y avait autre chose.
Bayrou pourrait être pape.
Mais Bayrou, il va être président de la République, il peut pas être tout. Peut-être il sera président de
la République, c'est un peu pape.
C'est quand même un geste extraordinaire. Ce qui me reste une seconde, c'est que, bon, le pape, on va en élire un autre, tout va bien, mais qu'on revienne un petit peu à la France. Elle est aujourd'hui en très grande difficulté, l'Europe aussi, qu'on passe un peu moins de temps sur des lois stupides qui ne correspondent à rien aujourd'hui.
C'est ça, Marotte.
Qu'on revienne un petit peu, oui, mais 50% du territoire rural va disparaître avec le couple sacré homme-territoire qui a fondé notre pays et notre État depuis des années. Maintenant, il n'y a plus que
ça la dictature. Ça ne va pas disparaître. Tu as un redécoupage des cantons lié au volume de population.
Ah oui,
mais il y aura toujours des représentants.
C'est quand même, on vit quand même une période où on abandonne une très grande partie de notre territoire. Parce que
Jean, on ne va pas faire les cantonales maintenant. Mais Lionel disait que c'est, sur Benoît XVI, ce n'était pas tout à fait la...
Oui, moi, je suis un petit peu surpris parce que ce n'est pas l'idée que je me fais du pape. Je pense que le pape doit aller jusqu'au bout. Jean-Paul II a été, au contraire, un formidable exemple de courage.
L'image.
Et c'est bien la première fois. Oui, peut-être, mais c'est pas l'image qui compte, c'est ce qu'on exprime. Et jusqu'au bout, après tout, Jésus, sur le chemin de croix, il s'est pas arrêté en route en disant, il y en a un autre qui pourra prendre le relais. Donc moi, je suis un peu interpellé par ce renoncement glorifié par tous, comme si c'était une référence. Autant en politique, je peux le comprendre, autant dans la mission de foi qui est celle du pape, j'avoue que je m'interroge. Et d'avoir le spectacle demain d'un pape en exercice et un autre dit honoraire, très franchement, ça va être original dans l'histoire
de la
papauté.
Pour une fois que l'Église rentre dans la modernité...
Mais ça n'a rien à voir, on s'en fout de la modernité. Mais c'est des principes qui fondent
sur des principes, à un moment donné...
C'est pas la modernité.
Non, mais attends,
vous êtes d'accord, j'entends.
C'est pas la modernité, c'est simplement de se dire aujourd'hui... Non, c'est pas de la frime, là. C'est de se dire qu'il y a un pape qui n'arrive plus à assumer ses fonctions et qui en prend...
Ah, qui le sait ?
Voilà, donc on le voit, ça se voit qu'il est au bout. Ça se voit qu'il est au bout.
C'est lui qui l'a décidé.
Décidé,
pour le pape,
donc,
c'est à Dieu de choisir. C'est ce qu'a l'air de nous dire Lionel Lucas.
C'est Dieu qui choisit.
Ah ben c'est Dieu qui l'a choisi, c'est Saint-Esprit.
C'est
le Saint-Esprit.
C'est le conclave qui a choisi. C'est quand même une très grosse organisation. Il faut quand même pouvoir la porter et porter des choses.
Allez, dans un instant, messieurs.
Un autre pape.
Merci. Dans un instant, Éric Brunet qui est contre les peines de substitution. Vous êtes avec l'ami Éric et nous, on se retrouve demain, 10h, les Grandes Gueules, avec le ministre Benoît Hamon.
Écoutez les Grandes Gueules 24h sur 24 en podcast sur rmc.fr.